quelques jours, des grands départs en vacances. Et alors que 70% des Français qui partiront le feront dans l'Hexagone. Question ce soir sur l'accueil des touristes. La France reste, paraît-il, la première destination mondiale avec près de 90 millions de visiteurs étrangers l'an dernier et un objectif affiché de 100 millions à terme. Mais cette France, championne du monde, se donne-t-elle vraiment les moyens d'accueillir dignement les visiteurs internationaux et par la même occasion, ses propres touristes? La question est posée alors que ces derniers jours, des témoignages faisaient état de 2 heures, voire plus de queue pour acheter un billet de train au guichet de certaines gares, que les guides touristiques parisiens faisaient part une nouvelle fois de leur désarroi quant aux problèmes de sécurité, d'interdiction de se garer pour les cars, mais aussi tout simplement du manque de toilettes publiques pour ceux qui visitent la capitale. Et puis, on n'oublie pas que Paris n'est pas la France et qu'il y a bien d'autres destinations. Alors ce soir, on va poser clairement la question de la politique touristique de la France, si tant est qu'il y en ait une au-delà des objectifs chiffrés. On va parler transport, offre d'hébergement. Avec nous ce soir pour aborder tous ces sujets, ceux pour lesquels vous allez nous appeler et nous interpeller, Didier Arino, bonsoir.
Bonsoir, Claire.
Directeur général de ProTourisme. Et Saskia Cousin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, enseignante à Paris Descartes, auteur d'une sociologie du tourisme aux éditions La Découverte, c'est bien ça? Et on attend évidemment vos appels à vous tous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction la Meuse, d'où nous appelle Patrice. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue à vous, vous êtes sur l'antenne, on vous écoute.
Ben, je pense que les problèmes d'accueil liés au tourisme se manifestent probablement en raison d'une concentration de certaines destinations sur le territoire. Et je me demande s'il n'y aurait pas une politique à mener de décentralisation en valorisant certaines régions qui méritent d'être visitées. Je peux prendre un exemple, si vous le voulez, de ma région, modeste, la Meuse. Hein. Le tourisme est lié fortement influencé par une thématique historique que vous connaissez tous, hein, la bataille de Verdun, avec un spectacle intitulé « Des flammes à la lumière ». Mais on peut parler aussi d'initiatives originales qui allient nature et culture. Deux exemples très simples, très courts. Vous avez une initiative originale qui existe depuis près de 20 ans qui s'appelle « Le vent des forêts ». C'est ce qu'on appelle du land art, où des artistes créent des œuvres que vous allez découvrir dans la forêt. Et puis, pour finir, eh bien, vous avez une thématique aussi liée à l'environnement. Et par exemple, cette année, vous avez un festival qui s'appelle le Festival des Burlesques, qui a lieu donc du 9 au 11 juin dans un petit village qui s'appelle Villers, et qui allie spectacle, concert, réflexion sur un sujet environnemental, bon, qui nous concerne tous ici, la gestion des déchets nucléaires. Donc vous voyez, il y a de quoi voir. Si on avait une politique de déconcentration, peut-être qu'il y aurait moins de soucis de surpopulation touristique dans certains coins.
Vous faites bien la publicité pour la Meuse, hein, Patrice. Vous travaillez, dans le secteur ou pas?
Ah non, je suis inscrit à la retraite.
Mais en tout cas, vous parlez bien de votre beau département. Merci beaucoup, Patrice, pour cette entrée en matière, Didier Arino. C'est vrai qu'il n'y a pas que Paris, hein, et la Côte d'Azur.
Absolument.
Il a raison, Patrice.
Mais Patrice a parfaitement raison. D'ailleurs, on voit bien que dans le secteur du tourisme, c'est l'offre qui crée la demande. Et donc, à partir du moment où on innove, on crée, on investit, on arrive à avoir des retombées économiques. Un cas tout à fait exemplaire, c'est un département comme celui de la Vienne, qui n'était pas du tout un département touristique il y a 40 ans, et du fait de l'initiative des élus, avec la création du Futuroscope, avec dernièrement la création d'un center park, quand on voit non seulement c'est efficace économiquement, puisque le solde entre 2013 et 2023, ça sera près de 100 millions d'euros de solde positif pour le département, c'est aussi de la création d'emplois, plus de 500 emplois, et donc on voit bien qu'en France, nous avons besoin de politiques volontaristes. Et c'est vrai que comme cette politique volontariste, elle ne se fait pas au niveau de l'État, c'est certainement aux régions, aux territoires, aux départements de prendre le relais. Et d'ailleurs, on le voit bien que l'investissement paie. Certains territoires se sont développés de façon tout à fait considérable. Les retombées économiques, par exemple, d'une métropole comme Bordeaux ont été multipliées par 3 en 15 ans. Donc on voit bien, Fabrice a raison, c'est véritablement l'investissement, la volonté aussi locale s'appuyer. Et puis les festivals, les événementiels. On voit d'ailleurs que chez la génération des moins de 30 ans, certains choisissent leurs vacances en fonction des festivals, que ce soit Gare au Rock, que ce soit les Vieilles Charrues ou d'autres événements.
Avec un succès grandissant chaque été. Saskia Cousin, dans ce que nous disait Patrice tout à l'heure, il parlait de l'histoire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un récit pour attirer les gens?
Oui, mais le récit, depuis toujours, le récit touristique, on le construit avec les gens et c'est aussi une fiction, mais c'est pareil sur l'histoire de Paris, évidemment. Mais il faut avoir quelque chose à raconter, mais il faut avoir envie de le raconter. Mais pour revenir à ce qu'il disait, je pense qu'il y a aussi un problème qu'il n'y a plus de politique touristique. L'État a toujours été un État faible, mais il y a eu des politiques touristiques à l'échelle nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle régionale, à l'échelle locale, et je pense qu'ils sont les mieux placés. Mais il y a peut-être un problème au niveau de la déconcentration et aussi une politique qui s'adresse à des touristes internationaux qui vont en fait aller dans des lieux de concentration parce qu'en fait vous commencez à aller ailleurs, par exemple dans la Meuse, dans ce formidable festival du Vendée-Forêt, quand vous êtes déjà passé en fait par les hauts lieux. Or, cette politique qui vise à ramener toujours des touristes du lointain, qui est positif en termes de devise certes, elle facilite pas du tout les politiques de décentralisation, de déconcentration. Il y a eu des politiques d'aménagement du territoire, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on est dans une politique des visas, en fait. Et en termes d'aménagement, de réflexion sur comment est-ce que le tourisme peut être déconcentré, non pas au sens des politiques publiques, mais arrêter cette hyper-concentration sur la Côte d'Azur et sur l'Île-de-France, ça veut dire aussi une réflexion sur qui on veut faire venir, et puis comment on s'adresse, comment on s'intéresse aux gens qui sont là. Parce que, voilà, vous l'avez dit, 70% des Français vont partir en vacances en France, c'est 80% des séjours des Français qui sont en France. On a des publics européens à qui il pourrait être intéressant de vendre autre chose que Paris, quoi.
Alors, on arrive effectivement, comme le dit Saint-Cyrusin, à la grande question de la politique touristique de la France, Didier Arinaud. Elle est toujours inexistante, ou alors elle est uniquement chiffrée, c'est ça ?
Elle est à la fois chiffré, puis elle est dans la communication. Il n'y a pas de vraie politique touristique. On a une politique touristique. Si on est devenu une très très grande destination touristique, c'est parce qu'il y a eu l'aménagement de la côte languedocienne à l'époque, hein, le littoral d'Occitanie avec toutes ces stations, la Grande Motte, Gruissant, Port Barcarès, etc. Ça a été issu d'une volonté de l'État. Et le Premier ministre de l'époque suivait les chantiers. On l'a vu dans l'aménagement de la montagne. Si on est devenu la première destination de montagne dans le monde, c'est parce qu'il y a une politique volontariste. Mais il faut bien l'avouer, depuis les années 60, il n'y a pas eu de véritable... Donc, on vit sur nos acquis, et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a perdu des parts de marché, on a progressé moins vite que nos voisins européens, et au-delà des chiffres qui sont annoncés, la France toujours première destination touristique, tout ça, ça ne signifie pas grand-chose. D'ailleurs, ces chiffres ne veulent rien dire, puisqu'on parle d'arrivée touristique. À en croire les statistiques, il y aurait autant de touristes belges en France qu'il n'y a de Belges en Belgique.
Donc, les 89 millions, vous n'y croyez pas, vous ?
Ah non, ça,
En
personne physique,
c'est du pipeau ?
Non. Ah mais c'est totalement du pipeau, bien évidemment. Il peut pas y avoir autant de touristes belges en France qu'il y a de Belges en Belgique. La réalité, c'est qu'on compte X fois les mêmes personnes, c'est-à-dire l'anglais qui vit en Dordogne et qui retourne en Angleterre 10 fois par an, il est comptabilisé 10 fois. Donc on voit bien que cela ne signifie rien. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est tout à fait parlant. Les recettes du tourisme français sont 3 fois et demi à 4 fois inférieures à celles des étrangers qui vont aux États-Unis. On est largement derrière l'Espagne et nous avons eu une croissance environ d'1% par an depuis les années 2000, alors que nos voisins européens progressaient de 3% par an. Mais il faut aussi bien souligner le fait que tout de même, il y a une prise de conscience et les choses se sont améliorées ces dernières années, justement du fait de l'investissement des collectivités, de la prise en compte du tourisme par les régions, par les métropoles, par les territoires, avec une croissance qui est une croissance. Et donc, ce flux qui était extrêmement concentré sur Paris et sur quelques grands spots touristiques, on a vu qu'on a eu une diversification des destinations en France aussi.
Mais alors juste, 89 millions, donc en 2018, vous n'y croyez pas, mais quand on nous dit quand même qu'il y a eu plus de touristes l'année dernière que par exemple les attentats de 2015 sont derrière nous, que les touristes sont revenus, ça c'est, on ne peut pas y croire,
non,
ça non plus.
Qu'il y ait eu plus de touristes, ça c'est tout à fait
ça, c'est une
réalité.
C'est vrai quand même.
Le fait qu'on ait une amélioration de la performance de l'économie touristique française, c'est une réalité. C'est juste ce chiffre qui ne veut rien dire pour une raison simple, c'est qu'il y a tous ceux qui traversent notre pays et qui passent juste une nuit dans l'Hexagone. En fait, leur destination finale, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est le Portugal, c'est le Maghreb. Et d'ailleurs, on le voit bien que ces chiffres, ils signifiaient pas grand-chose. Parce qu'à partir du moment où les touristes, ils sont passés au-dessus de nos têtes avec le développement des vols low-cost, où les Belges, ou les Néerlandais, ou les Anglais n'avaient plus besoin de passer par la France pour aller vers des destinations du Sud, bah bizarrement, là, on a eu une diminution de notre fréquentation. fréquentation. Et puis, il faut bien le souligner, 80% dans ces chiffres de la fréquentation, presque 80%, c'est une clientèle européenne. Et bon nombre de pays européens reçoivent plus de clientèle lointaine, internationale, que la France. Mais la France reste, et il faut bien le dire, une destination qui fait rêver à l'étranger. Et c'est une bonne chose sur laquelle nous pouvons construire, nous pouvons développer une économie touristique et de l'emploi.
Et on surfe là-dessus en jouant les gros bras, Saskia Cousin, c'est ça?
C'est ça, la France est le premier
pays. On se
pousse
du col et on fait cocorico.
La France est le premier pays traversé, c'est pas le premier pays visité. Donc ça, c'est... Après, il y a peut-être un problème, on parlait de récit, un problème de récit touristique de la France, de l'État français à l'international, qui va toujours mettre l'accent en fait sur les mêmes hotspots et en fait et qui va ne pas du tout s'intéresser à ceux qui font l'économie touristique des territoires, qui sont d'abord les vacanciers français, hein, qui vont passer du temps, c'est-à-dire ils vont pas juste acheter un porte-clés ou un objet produit à l'autre bout du monde ou d'ailleurs du luxe dans Paris, mais qui vont rester voilà. Donc là il y a une réflexion peut-être à avoir en termes de politique publique et de régulation à l'échelle nationale. Et effectivement, aujourd'hui, c'est les régions qui s'occupent d'accueillir les touristes. C'est pas du tout l'État. Il n'y a plus de réflexion globale.
Petite question
écologique.
On a un secrétaire d'État au tourisme, mais il dépend du Quai d'Orsay. Oui. C'est un souci ou pas ça?
Alors moi, je pense que c'est un souci parce que on est passé d'un État aménageur, comme ça a été dit. Ensuite, il y a eu l'État animateur des années 70. Vous voyez, le ministère des temps libres. On a eu un État artisan commerçant. Et puis là, on est avec, depuis 2016, donc rallié au Quai d'Orsay. Et là, en fait, l'idée, c'est une politique des visas. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on a abandonné complètement une réflexion sur les vacances et même sur les Européens qui viennent en vacances et sur les Français qui passent du temps en vacances. Or, la plupart des gens, ils ne font pas du tourisme. Ils se posent dans un endroit où ils vont faire un séjour. Et puis, dans ce séjour, ils vont avoir des circulations touristiques. Or, ces personnes-là, qui font la diffusion sur un territoire, sont totalement sortis des radars des politiques nationales. Donc ça pose un problème.
Ça pose un problème, d'autant que c'est quand même un secteur qui peut rapporter. C'est un secteur économique important, Didier Arinon,
le tourisme. Entre 2010 et 2015, le tourisme est le secteur qui a créé 44% des emplois dans le secteur privé. C'est tout à fait extraordinaire, l'effet de levier du secteur touristique. Et au-delà des chiffres, quand on a une attractivité touristique, il faut savoir qu'il y a aussi une attractivité économique. Et les entreprises, y compris des entreprises étrangères, vont dans des zones qui sont des zones attractives. Donc on voit que c'est un secteur majeur. Et puis on parle des clientèles étrangères, mais n'oublions pas les clientèles françaises. Depuis plusieurs années, nous avons perdu des parts de marché sur les clientèles françaises qui sont parties en plus grand nombre à l'étranger. L'an dernier, on a eu un chiffre record. 16,5 millions de nos concitoyens sont partis à l'étranger. Donc conquérir des clientèles étrangères, c'est très bien, c'est nécessaire, mais il faut aussi conserver les clientèles françaises. Je le dis d'autant plus facilement que cette année, on a une bonne nouvelle cette année, c'est qu'on a une croissance à la fois des clientèles étrangères et des clientèles françaises. Donc on peut véritablement, on voit bien, il y a un mouvement qui est un mouvement de fond, vers plus de proximité. La mode n'est plus forcément aller loin, c'est pas forcément mieux. Et on est dans un changement de paradigme du tourisme mondial dans lequel la France a une carte à jouer. Et puis, il y a quand même des choses qui ont été faites en matière de tourisme, et notamment une segmentation beaucoup plus fine des clientèles au travers des thématiques. C'est pas, il n'y a pas un touriste, il y a quantité de touristes avec des attentes fort différentes suivant les pays, suivant les centres d'intérêt. Et de ce point de vue, le travail qui a été accompli par Atout France, à la fois en ingénierie mais aussi en promotion, est un travail de qualité avec des moyens qui sont des moyens limités par rapport à nos concurrents internationaux.
Atout France, c'est l'organisme qui s'occupe...
C'est l'organisme national qui s'occupe de la promotion et de l'ingénierie touristique.
C'est l'étranger ou aussi ici?
À l'étranger et aussi de plus en plus en France. D'ailleurs, de ce point de vue, on est un des seuls États dans le monde qui avons une ingénierie publique.
On repart au standard de France Inter. Marie est à Maison Lafitte et elle est au bout du fil. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Bienvenue.
Eh bien, oui, je vous remercie pour vos émissions. Donc, écoutez, vous avez abordé pas mal de choses, comme les transports, les difficultés pour prendre son billet de train, etc. Et moi, je voudrais dire que, bon, le tourisme, pour l'avoir moi-même vécu, moi, je crois que les touristes, on doit les accueillir comme des amis et non pas des mannes financières. La France est un beau pays, enfin, était.
Vous êtes toujours là, Marie? Ou on vous a perdu en route? entre Maison Lafitte et puis la Maison de la Radio, je crois qu'on vous a perdu, Marie. Je crois que vous vouliez parler de la façon dont on accueille. Elle est toujours là, Marie. Marie,
oui.
On vous a retrouvé. On vous reçoit 5 sur 5.
Oui.
On vous écoute.
Donc je disais, les touristes, il faut les accueillir comme des amis. Hein, et pour cela, il faut, quand on accueille un ami, on lui met une chambre à disposition propre, on fait de la bonne cuisine, on essaye donc de...
Décidément, on a des petits problèmes de liaison, mais je crois qu'on a compris l'esprit de votre question, Marie. Saskia Cousin, l'accueil du touriste, c'est quelque chose d'essentiel ?
Absolument, c'est toute la question de l'hospitalité. Alors c'est l'accueil des étrangers en général, dans tous les pays du monde, on a des codes pour accueillir les étrangers, que ça soit marchand ou non marchand, hein, il y a des codes. La France a très mauvaise réputation en termes d'accueil. En fait, c'est lié à toujours la même chose, hein, des hotspots, des lieux où il y a des flux de touristes qui passent, notamment, la mauvaise réputation est liée, par exemple, aux serveurs des bars parisiens. Mais en fait, quand on discute, quand on fait des entretiens un peu longs avec des gens qui sont en vacances en France ailleurs que dans le centre de Paris, on n'a pas le même
retour. On n'a pas si mauvaise réputation.
On n'a pas si mauvaise réputation, mais en gros, cette mauvaise réputation touche en fait les endroits qui sont l'objet de flux importants. Après il y a un problème de qualité c'est pareil, enfin je pense qu'il y a un problème de qualité dans l'offre touristique dans un certain nombre d'endroits, mais je suis pas sûre que ça soit forcément le cas, enfin différent des autres pays.
Sur l'accueil, peut-être une question, parce que c'est parfois reproché aux Français, je sais pas si c'est un véritable argument. On parle pas assez l'anglais pour répondre.
Oui, alors il y a ça,
touristes.
J'allais y venir. Oui, il y a la question de la maîtrise des langues, qui est, les Français tiennent à leur langue, mais c'est vrai que parfois c'est compliqué. Il y a un autre problème que moi j'ai pu recueillir, c'est aussi l'adéquation entre les horaires affichés et les horaires réels. Alors ça, on n'est plus dans la question des lieux, des hauts lieux touristiques, mais la question de, la coupure de midi, la fermeture le lundi. Bon, voilà, souvent
les gens
on a des retours.
Pas pourquoi il faut manger entre midi et 2 et puis le soir à partir de 19h et pas à 18h, Didier Arino.
Mais ça, c'est très important de le mettre en avant, en fait. La question, c'est comment on le présente. C'est-à-dire, l'hospitalité, c'est aussi j'accueille quelqu'un chez moi et je vais lui faire vivre à mon rythme. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un récit qui l'accompagne et que la personne qui vienne ait un peu le temps, c'est-à-dire qu'on lui vende autre chose que 12 villes en une semaine, et puis que derrière, ça fasse partie de l'expérience, le fait de prendre du temps.
Alors, après, il y a aussi de véritables problèmes dans notre pays. C'est le problème du service. On confond malheureusement service et servilité. C'est pas bien dans notre pays, de pays de révolution, d'aller servir les autres. Et pourtant, il y a rien de plus beau que de rendre nos invités, nos hôtes heureux. Et cette dimension du service, on est très en retard, à la fois d'un point de vue de la formation en la matière, et puis il faut faire preuve d'un peu de générosité, de gentillesse et d'empathie. Et rien que cela, on parle toujours de formation dans le secteur du tourisme. Il y a quantité de pays où les gens n'ont pas d'école d'hôtellerie et de restauration, et pourtant dans lesquels il y a une qualité d'accueil.
Parce qu'ils sont gentils de nature, c'est ça que vous voulez nous dire ?
Parce qu'ils ont envie de faire plaisir. Mais là aussi, ça nous renvoie à notre égocentrisme et au fait qu'on est tourné vers soi-même. Quand il y a un problème dans un restaurant, très souvent on dit c'est pas de ma faute, c'est la cuisine. Mais pour le client, mais bien sûr, il y a une solidarité d'une équipe dans ces cas-là. Et puis des difficultés aussi, parce que ce secteur a du mal à trouver du personnel, il faut aussi bien le dire. Y compris d'ailleurs, parce qu'on dit souvent que les salaires sont bas, mais même lorsque des salaires sont tout à fait convenable. Il y a une difficulté à trouver de l'emploi dans ce secteur parce que ça n'est pas à la mode, comme la plupart des métiers manuels. Or, il y a de formidables carrières qui peuvent être faites dans ce secteur. Il y a un secteur quand même qui est sorti du lot et qui est devenu un vrai leader mondial, c'est ce secteur de l'hôtellerie de plein air. Les campings aujourd'hui accueillent de plus en plus de clients, ont un chiffre d'affaires qui augmente, investissent de façon tout à fait considérable et avec un niveau de prestation qui s'accroît, qui est tout à fait inégalé dans des chaînes comme Sunelia, comme Yellow ou Flower. Donc on voit bien, et au plus près des territoires. La question qui se pose, c'est aussi la question de l'investissement. Il faut absolument qu'on ait une vraie politique d'investissement dans notre pays, dans le secteur du tourisme, pour être au niveau des autres pays européens.
Pour en revenir encore à la question de l'accueil, la question du service, quand on doit faire la queue pendant des heures, alors ça c'est valable pour tout le monde, hein, pour les visiteurs étrangers, pour les touristes français ou pour ceux qui voyagent pour d'autres raisons, on manque quand même de personnel et dans les gares et ailleurs, ça s'y accuse, non ? C'est pas un souci quand même ?
Il y a un problème de personnel. Alors il y a un problème de, et c'est là où l'État pourrait intervenir, il y a un problème de régulation du marché du travail. C'est-à-dire un certain nombre de gens sont payés maintenant, sont auto-entrepreneurs. Enfin, il y a une sorte d'ubérisation de toute une partie du marché du travail lié au tourisme. Après, faut en parler à la SNCF. Je pense que là, il y a un vrai gros problème de réflexion de politique, c'est-à-dire cette politique d'aménagement dont on parle des années 60. Aujourd'hui, il y a plus de réflexion sur justement le train comme outil d'aménagement du territoire, comme manière de diffuser sur le territoire autrement qu'autour de hotspots ou d'aéroports. Et là, ça veut dire aussi concrètement des gens derrière des guichets, des gens qui acceptent, enfin qui sont autorisés à vendre des tickets de métro dans des gares, enfin des gens qui sont là pour accueillir des personnes étrangères et qui ne les renvoient pas à des machines parce qu'ils ont interdiction de vendre des tickets ou parce qu'on a supprimé les gares. Si on veut une diffusion sur le territoire, il faut aussi une diffusion des modes de transport. Or là, on est en phase de suppression, entre suppression des trains de nuit, suppression des gares.
Il faut du personnel, parce que là, j'ai entendu dire que maintenant, on met des volontaires pour accueillir les touristes dans la région Île-de-France, qu'on va payer comme stagiaires. Est-ce que c'est normal, ça?
Alors, bon, il y a les contradictions aussi de l'État vis-à-vis de la SNCF, c'est-à-dire on lui demande de faire des économies sur un certain nombre de choses, donc les économies, ils le font sur quoi? Il y a des coûts aussi de structures qui sont tout à fait considérables. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'informatique ne remplacera jamais l'humain. Et que quand on est dans une situation de touriste, on a besoin d'avoir
des gens devant soi pour vous parler,
qui vous parlent. Maintenant, on ne doit pas tomber dans le travers de dire c'était mieux hier, avant-hier, parce que quand on regarde l'évolution de la SNCF, je tiens à vous rappeler l'état des trains, du service, des wagons restaurants dans les trains il y a 30 ans, on ne peut pas dire que les choses ne se soient pas améliorées. Véritablement, il y a aussi une volonté qui est une volonté des publics, et ça il faut absolument le comprendre, de sortir du tout voiture, de sortir de l'avion peu à peu, et donc il est très important d'intégrer cette dimension dans des transports qui sont des transports collectifs, et notamment au travers du train, puisque plus de Français veulent prendre le train, il faut qu'il y ait la qualité en face.
Et vous nous amenez à la question de Jean-Marc, il est à Albi et il veut nous parler justement de l'impact sur l'environnement. Bonsoir Jean-Marc. Vous êtes là?
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, mais effectivement, on parle de toujours plus de touristes, de développer le tourisme avec un objectif de 5 millions, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une consommation plus raisonnée, comme toute forme de consommation, quand on voit l'impact du tourisme sur l'environnement, au niveau du bétonnage du littoral, on en parlait tout à l'heure, des stations de ski dans les montagnes. Voilà, il y a des questions à se poser sur les écosystèmes, les consommations d'eau, le réchauffement climatique dans les transports, etc.
Bonne question, merci beaucoup Jean-Marc de nous avoir appelé Saskia Cousin sur cette question.
Effectivement, et c'est justement, c'est quand je disais qu'il fallait sortir du récit touristique, l'objectif c'est 100 millions, mais ça veut dire quoi 100 millions? C'est 100 millions de personnes qui sont en transit, ou alors il vaudrait-il pas mieux avoir 50 millions de personnes qui vont rester pendant 8 jours, qui vont découvrir le territoire, qui vont pas polluer avec des bateaux de croisière, enfin c'est parce que là on a quand même un énorme problème avec des lieux comme les bateaux de croisière, les avions, et puis aussi comme on est dans l'affirmation de toujours plus de flux. En fait, forcément, ces gens, ils vont tous au même endroit, ils vont tous avoir les mêmes consommations de produits qui sont en fait bas de gamme et qui sont importés. Donc, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. C'est-à-dire que, en fait, comme tout secteur, si on vise en fait absolument le quantitatif, eh ben, on se pose pas la question du qualitatif. Or, on voit aussi que les visiteurs, les touristes, ils vont aussi dans d'autres pays parce qu'il y a aussi d'autres modalités d'offres en fait qui permettent une réflexion, qui permettent de prendre son temps. Et voilà. Et effectivement, le tourisme est un des éléments majeurs de pollution. Hein, c'est le trafic aérien. Voilà, mais à l'échelle mondiale, mais
qu'on
par exemple,
on va taxer, hein, on l'a appris hier.
Par exemple,
oui, mais de toute façon, on sait faire. On ne sait que taxer, mais on pourrait aussi compenser le CO2. On va pas arrêter de se déplacer. Il faut avoir une conscience écologique. Mais en France, on ne sait faire que taxer. À un moment donné, on pourrait aussi compenser, replanter. On pourrait aussi faire de vrais investissements en matière de diminution des consommations énergétiques. On pourrait favoriser les hébergements écotouristiques. On pourrait permettre justement de vivre les stations balnéaires ou les stations de montagne autrement en sortant du tout voiture. Donc, il faut aussi avoir une politique qui est une politique volontariste. D'ailleurs, de ce point de vue, une région comme l'Occitanie a décidé de se lancer dans une politique volontariste Et c'est très important. On ne peut pas faire que taxer avec aussi un travers derrière. C'est que si nous sommes les seuls à le faire, notamment au travers des, on va pénaliser notre compagnie aérienne qui est Air France. Donc on doit rendre le tourisme plus responsable. On doit avoir de véritables politiques et il suffit pas de dire on a un problème, on jette en pâture tel ou tel mode de transport. Il faut aussi proposer des solutions alternatives pour que les Français puissent s'y retrouver. On l'a vu avec les gilets jaunes, c'est une leçon. On ne peut pas uniquement taxer les gens et les culpabiliser parce que sinon ils finissent dans la rue. Ils ne sont pas complètement idiots. Donc c'est très important de rentrer dans une logique qui est une logique où on est tous plus responsables et où on a la volonté d'aller au contact des populations, d'avoir un slow tourisme. Et croyez-moi aujourd'hui, les touristes sont prêts à cela, ils le revendiquent et ils le demandent.
Vous avez parlé des gilets jaunes, est-ce que ce mouvement a eu un impact justement sur la fréquentation touristique? J'ai l'impression qu'un petit peu quand même.
Non, sur les arrivées, je ne sais pas. En tout cas, ça a été mis en avant comme une des... malgré les gilets jaunes, ce que j'ai vu sur les chiffres, c'est malgré les gilets jaunes, le tourisme se tient. Donc c'était pas...
pas si catastrophique.
Après, évidemment, sur les endroits où avaient lieu les manifestations, j'imagine que pour les touristes... ça a eu des effets.
On repart au standard, si vous me le permettez. On a un Parisien en ligne, et Paris étant une grande destination touristique. François, j'imagine que vous avez des choses à nous dire. Bonsoir.
Oui, bonjour. Je suis Parisien et retraité, et je marche énormément dans Paris. Et je m'aperçois dans les lieux les plus touristiques du manque criant de poubelles ou du manque criant d'employés pour les vider et pour nettoyer. Donc, j'aurais voulu demander à la mairie de Paris, mais je pense qu'il n'y a pas de représentants.
Non, ce soir, c'est pas des représentants.
Le nombre d'employés à la propreté à temps complet dans les lieux les plus touristiques, il y en a très très peu et c'est bien dommage pour l'image de la ville. Dit-on la plus visitée au monde.
Merci beaucoup pour cet appel, François, sur les infrastructures, enfin sur les aménagements.
C'est toujours
de Paris,
la question de comment est-ce qu'on est capable d'investir ces infrastructures, mais c'est aussi les humains. Et donc les humains, c'est les gens qui vous accueillent, les gens qui vous vendent des billets de train, les gens qui vont faire que la ville soit belle. Et là, à un moment donné, ça finit par se voir. Et effectivement, c'est un élément en fait récurrent dans les récriminations des touristes, des visiteurs, des Parisiens ou dans d'autres villes. Donc c'est vraiment une question, là pour le coup, de la mairie, mais aussi une question de politique publique de l'État. La question c'est comment est-ce qu'on investit aussi dans le travail humain. Parce que là, on a un marché du travail touristique qui n'est pas du tout régulé.
On a aussi des messages qui nous arrivent sur Twitter et par mail à propos des toilettes. Je vous les soumets parce que c'est une vraie question à Paris et pas qu'à Paris, parce que là, il y en a qui nous parlent d'Avignon, plus grand festival de théâtre au monde. Les toilettes publiques situées en plein centre-ville sont ignobles. À Paris, évidemment, c'est les touristes qui cherchent désespérément des toilettes. Didier Arino, c'est une vraie question.
Oui, il faut aussi que le touriste finance ce qu'il représente comme coût. Et quand on voit le développement des formules via les plateformes de location, les Airbnb, les Abritel et autres, quelle est leur part de financement de ce tourisme? Quand on voit que dans certaines régions, il y a 10 fois plus de lits sur ces plateformes qu'il n'y a de lits hôteliers. Or, à un moment donné, il va peut-être falloir, au travers de la taxe de séjour, c'est qu'on puisse récupérer des fonds pour pouvoir financer la politique touristique. Vous savez, on le dit souvent, on n'accueille pas des touristes parce que ça nous fait plaisir. Ça n'est pas vrai. L'objectif, c'est de développer de l'emploi dans les territoires, d'avoir aussi des retombées économiques, c'est-à-dire que le coût du touriste soit inférieur à ce qu'il rapporte au territoire. Et ça, c'est très important. Donc pour cela, il faut aussi récupérer des recettes. Et on le voit bien, ça ne peut pas être uniquement les hébergements, les hôtels, les campings, les villages de vacances, les résidences de touristes qui financent, alors qu'on a autant de nuitées en France, générée par ces plateformes en ligne, que de nuitées hôtelières.
Mais pourquoi justement
France était le pays le plus libéral du monde, faut quand même se le dire, en matière... vous dites taxer, en ce qui concerne Airbnb, on avait une législation beaucoup plus libérale que la plupart des villes américaines, Berlin, Amsterdam, etc. Donc il y a vraiment une... Mais la prise de conscience a été très tardive par les politiques publiques. Après, il y a des lobbying, Mais là, ça, effectivement, là encore, on parle de est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une puissance publique et une réflexion. Alors, ça peut être à l'échelle des villes, mais par exemple, Paris met ça en place. Mais les villes qui n'ont pas la capacité politique de faire pression sur Airbnb, on l'a vu pour, je crois que c'était la Coupe d'Europe, qui a reversé avec ses séjours à Bordeaux, mais pas aux villes de la Seine-Saint-Denis parce qu'ils avaient pas la... Enfin voilà, ils étaient trop peu. Donc là encore, ça pose la question de est-ce que l'État est capable de faire un, de réfléchir à des modes de régulation sur voilà certains certains pays ont carrément, le Japon a carrément interdit Airbnb, d'autres, là on a, on part tous, tout, toutes les villes partent dans le désordre avec des enjeux électoraux à la fois pour ceux qui louent du Airbnb et ceux qui subissent les effets du Airbnb, et là encore on peut, on pourrait avoir une réflexion
On Elle pourrait est... récupérer oui, 150 millions d'euros à 1 euro la taxe de séjour ou 0,80 par nuitée. Je pense que ça finance quelques poubelles, quelques employés municipaux, de l'animation et des infrastructures. Il faut véritablement que l'ensemble des acteurs, que ceux qui bénéficient du tourisme... Et là, vous savez, il est de bon ton de dire c'est l'État, les collectivités, mais là, c'est les particuliers quand même qui louent leur appartement ou leur maison. Et dans ces cas-là, ils se comportent en capitalistes avérés, puisque souvent ils ne déclarent pas leur hébergement, ils ne paient pas de taxes de séjour. Donc c'est tout un chacun qui doit être responsabilisé. C'est 1,5 million de logements qui sont mis en marché. On n'est pas véritablement dans de l'accessoire. On est dans une fréquentation qui est extrêmement lourde.
On sait qu'à Paris effectivement la réflexion est engagée parce que ça se fait au détriment du logement pour les Parisiens. À Paris, la réflexion va plus loin en matière de tourisme puisqu'il y a eu un colloque organisé le mois dernier sur le thème, y a-t-il trop de touristes à Paris ? Est-ce qu'on est en surtourisme dans la capitale ? Je ne sais pas qui souhaite réagir.
Moi, j'ai animé la table ronde, donc je suis un peu mal placée pour commenter sur cette...
Est-ce que c'est une vraie question quand
En
même
fait, la question, c'est toute la question de la répartition des flux. Et donc, il y a trop de touristes dans certains endroits à certaines heures. Donc, la question, c'est comment on réfléchit collectivement à la répartition. Mais ça pose des vrais problèmes. On le voit justement avec les logements Airbnb. C'est-à-dire que jusqu'ici, les touristes étaient un peu concentrés dans ce qu'on appelle le district touristique, donc en gros dans des endroits où il y a assez peu de monde qui habite. Or, la volonté de répartir les flux et le fait qu'il y ait des logements Airbnb dans, on va dire, les 20 arrondissements Paris, et notamment des arrondissements du nord-est parisien, fait que, en fait, les effets de ces hébergés, de ces touristes qui sont Airbnb, se voient plus et peuvent être plus négatifs dans ces arrondissements que dans le centre de Paris où finalement ils sont entre eux et c'est des flux. Donc c'est vraiment une réflexion compliquée parce que la question de la gestion des flux, c'est pas juste combien il y a de personnes sur le trottoir. Il y a quel effet ça va avoir, on l'a vu dans le Marais, mais ça commence à avoir des effets dans d'autres. Et puis, fermeture de certains commerces.
Il n'y a pas que le logement, il y a aussi par exemple les musées, le musée du Louvre. Les trois quarts des visiteurs sont des touristes et puis beaucoup de gens se plaignent qu'ils ne peuvent plus aller au musée.
Oui, alors bon, d'abord, dans 80% de notre territoire, on n'a pas un problème de surtourisme, on a un problème de sous-tourisme. Hein, donc il faut aussi relativiser. Il y a quelques territoires où à Paris, et ça reste, d'abord les choses là aussi se sont améliorées, notamment dans les visites de sites, il y a des problèmes qui sont des problèmes de répartition de ces flux. Il y a des mesures qui peuvent être prises, notamment avec des horaires, avec le fait aussi de pas... Par exemple, le château de Chambord a pris une initiative sans avoir un fil de visite où les gens déambulent, ce qui évite d'avoir ces queues pas croyables. On voit bien qu'un certain nombre d'initiatives... Et puis, ça suppose aussi de développer et de démultiplier les centres d'intérêt. Bien évidemment, quand on à Bordeaux, la Cité du Vin, par exemple, qui a été créée, est un formidable équipement. Quand on est dans une thématique et quand on va à Bordeaux, on a envie de découvrir le vin, ben cette Cité du Vin qui accueille 400 000 visiteurs, ça a permis de mieux répartir les flux. Il faut aussi démultiplier les sites, qu'on n'ait pas une concentration sur quelques spots touristiques.
Eh ben, on va aller à Marseille, autre destination, c'est Sophie qui est sur place. Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Comment ça se passe chez vous, Sophie ?
Bien, écoutez, je suis un peu... surprise, parce que cela fait plusieurs années que je vis à Marseille. Pendant des années, le tourisme a été, mais vraiment, un très petit train. Il a fallu attendre 2013, Marseille, capitale européenne de la culture, pour que des choses se débloquent dans tous les sens, et notamment au niveau du tourisme. Aujourd'hui, il y a des énormes bateaux qui débarquent avec des cargaisons de touristes qui font Marseille au pas de course dans la journée.
Et ça vous ennuie ?
Très sympathique. Non, c'est pas que ça m'ennuie. Moi, je trouve que tous les gens du monde ont le droit de visiter tous les endroits du monde. Ça ne m'ennuie pas. Ce qui m'ennuie, c'est que ces bateaux-là, parce que moi, je vis là, et déversent des tonnes de saloperies excusez-moi du terme, mais au niveau environnemental, c'est absolument impossible. Et que je n'ai rien contre les gens qui viennent se promener, mais le
mais
mode
trop,
de transport
trop.
Qui Sophie. Leur est proposé... Oui,
oui, je vais vous couper parce qu'il est déjà 19h55, bien tassé, et qu'il faut qu'on arrive à vous répondre, hein, tout simplement, sur ces gros bateaux qui arrivent.
Un bateau de croisière, c'est 1 million, comme ça pollue comme 1 million de voitures. Donc voilà.
C'est une vraie réflexion qu'elle nous fait.
C'est absolument effroyable ce qui se passe actuellement à Marseille. Quand on calcule la pollution générée pour les habitants et notamment les riverains des quartiers nord de Marseille, on est en train d'empoisonner totalement les habitants des quartiers nord de Marseille. Donc là, il y a un vrai problème. Et là encore, ça relève de l'État, c'est les ports. Je veux bien que la construction de bateaux soit une industrie nationale, mais à un moment, il y a la santé des gens qui est en jeu. Et on voit ce que ça a fait à Barcelone. On voit ce que, enfin voilà, c'est totalement détruit. Un tourisme qui s'était construit avec la ville et pas contre la ville, l'arrivée des croisières.
Didier Reynaud.
Il faut de la diversité. Il faut de la diversité des espèces dans le monde et il faut de la diversité des pratiques touristiques. Quand on est trop dépendant d'un type de tourisme, ça génère forcément des nuisances tout à fait considérables. Là aussi, il y a un certain nombre de solutions quand même. Du jour au lendemain, ces bateaux de croisière vont pas s'arrêter. Il faut faire en sorte d'avoir, de permettre de les alimenter, notamment en électricité, au lieu de l'imposer même. Et de la même façon, il faut qu'on rentre dans une véritable politique environnemental du tourisme, qu'on soit les leaders en la matière. Et le vrai défi pour la destination France demain, c'est certainement plus de qualité, mais qu'on devienne les leaders d'un tourisme éco-responsable, car sur la planète, on voit bien que quantité de destinations vont être détruites par ce tourisme. Nous avons la chance d'avoir des règles environnementales en France, et de ce point de vue, nous sommes bien au-delà de ce qui se fait dans bon nombre d'autres pays. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin, par la qualité, et pas d'une façon... idéologique où on va croire que du jour au lendemain personne ne voudra partir en vacances. Partir en vacances, c'est un droit. Les Français y sont attachés. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des vacances beaucoup plus responsables, beaucoup plus proches des populations et avec des flux mieux répartis.
Deux petites questions avant de conclure sur les métiers du tourisme. Pour ceux qui nous écoutent, notamment les jeunes qui auraient envie de se lancer là-dedans, est-ce que c'est un secteur d'avenir, Saskia Cousin? On nous dit peut-être 200 000 emplois, par exemple, rien que à l'horizon 2024, avant les prochains Jeux Olympiques.
Quand on regarde d'un point de vue historique, c'est beaucoup d'innovations, notamment techniques. Première ville électricité de France, c'est Saint-Jean-de-Luz, etc. Donc c'est à la fois des métiers très mal vus, très mal payés, avec cette ubérisation, mais voilà. Mais en même temps, c'est des métiers où, en fait, il y a encore plein de choses à inventer. C'est-à-dire, je ne suis pas capable, pourtant, j'étais responsable d'une formation de master pro tourisme, je suis pas capable de vous dire, je pense, quels seront les métiers du tourisme dans 10 ans. Je pense que c'est nos étudiants qui vont les inventer. Et ça, je pense qu'en tout cas, quand on sort de, enfin voilà, quand on a 20 ans, je pense que ça peut être une perspective.
Didier, mais quel conseil vous donnez à des jeunes qui ont envie de se lancer là-dedans?
C'est absolument extraordinaire, les métiers du tourisme. Effectivement, ce sont certainement pas les métiers les mieux payés, mais il n'y a pas que l'argent non plus dans la vie. On peut aussi prendre du plaisir. Il y a de très belles carrières à faire dans ce secteur. C'est aussi une belle opportunité pour ceux qui n'ont pas forcément de diplôme de pouvoir progresser. Il y a des quantités d'histoires fantastiques de jeunes qui sont rentrés dans le secteur du tourisme. Et c'est un métier de rencontre, de découverte. C'est un métier où il y a énormément d'innovation. Donc moi, je conseillerais d'aller dans ces métiers du tourisme qui sont des métiers fabuleux et pour lesquels il y a des gisements d'emplois tout à fait considérables. On pourrait, dans le secteur du tourisme, créer entre 200 000 et 500 000 emplois dans les années qui viennent. Encore faut-il qu'il y ait une autre image de ces métiers, et ils ne sont pas tous sous-payés non plus, parce qu'on entend en disant oui, mais ils veulent pas faire ce métier parce que c'est sous-payé. Ça n'est pas toujours le cas, ça n'est pas vrai, et c'est un métier passionnant.
Et qu'est-ce que vous leur conseillez avant toute chose? Les langues étrangères peut-être, notamment pour l'accueil de
tous.
Même s'ils sont pas 89
les
millions.
Langues étrangères, l'empathie, c'est-à-dire c'est quoi l'empathie? C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre.
Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Un très grand merci Saskia Cousin d'être venue ce soir à France Inter. Merci à vous aussi Didier Arino. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours intéressant de parler de tourisme dans ce pays. On en parle peut-être pas assez souvent à l'occasion des vacances, mais on oublie le reste du temps. Un grand merci à Pierre Dessertaine, Emma Ferret, Mathilde Sour qui m'ont aidé à préparer cette émission, à la réalisation Claire Destacan, à la technique Élise Christophe-Antoine Gomez. Un grand merci aussi aux standardistes qui ont pris vos appels demain. On parlera de quelque chose de beaucoup moins joyeux, on parlera des féminicides.